cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Alors, on apprend que Frédéric Silva, on le sait, c'est cet ex-tueur à gages qui est passé à la table et qui a fait des aveux aux policiers. Ben, ça a permis de résoudre plusieurs dizaines de meurtres après ces aveux explosifs. Félix Séguin, c'est toute une histoire, c'est la saga de Frédéric Silva.
Ben oui, ça est une énorme histoire et on va en parler pendant toute la durée de la chronique, si tu veux bien, parce qu'il y a tant à dire sur cet article que nous avons publié au bureau d'enquête, là, en compagnie de votre humble serviteur et de mon fidèle ami et partenaire Éric Thibault. Au fond, ce qu'Éric et moi avons trouvé, c'est que l'ex-tueur à gages, Frédéric Silva, tu l'as bien nommé, aurait confessé ou informé, si l'on veut, les autorités des gens qui étaient derrière, qui auraient commandité, qui auraient participé, qui auraient aidé, qui auraient comploté à commettre plusieurs dizaines de meurtres au Québec. Et juste pour te donner, si tu veux, un aperçu de l'importance des déclarations de Silva transmises aux policiers, on s'entend sur une chose dans le milieu du renseignement criminel au Québec. Les confessions de Frédéric Silva permettent d'élucider plus de meurtres qu'en a permis Gérald Galland. Gérald Galland aurait été en Suisse en 2006, qui fait l'objet maintenant d'un film réalisé par Luc Picard, en a commis 28. Alors, fais le calcul, Yasmine, c'est plus que 28. C'est donc énorme. Rappelle-toi une chose, et dans le journal aujourd'hui, là, si vous achetez le journal, si vous allez le consulter sur notre site, vous allez voir Frédéric Silva, puis c'est la photo qui orne l'article, qui est en tête de l'article, vous allez voir Frédéric Silva à l'aéroport Montréal-Trudeau, en compagnie de Leonardo Rizzuto et Stefano Sollicito. Ce sont l'organisation, les têtes, si l'on veut, dirigeantes de cette mafia organisée de manière bicéphale, la mafia sicilienne à Montréal. Ça ne veut pas dire que parce que Frédéric Silva est pris en photo avec Leonardo Rizzuto et Stefano Sollicito qu'il est nécessairement celui qui exécute leur base d'œuvre. Mais on s'entend que les policiers croient que oui. Et on le voit plus tard en photo avec Grégory Woolley, entre autres, l'ancien fondateur des syndicats, puis un criminel de haut vol au Québec. Et c'est donc les policiers qui sont en train de consulter les déclarations de Silva et qui se rendent compte que Silva a commis des meurtres lui-même depuis le début, milieu des années 90 jusqu'à tout récemment. C'est à peu près 25 ans de meurtres dans le crime organisé dont Silva informe les policiers. Alors, il en a commis lui-même, Yasmine, plusieurs. Il a été complice de plusieurs autres. Il avait tellement de contrats de meurtre, nous dit-on, qu'il est devenu presque une boîte aux lettres pour les commettre, c'est-à-dire il recevait les contrats et lui les sous-traitait à d'autres membres du crime organisé pour les commettre. Donc ça le place dans une situation, bien sûr, de complot pour meurtre. Et il a été aussi témoin direct de certaines commandes qui ont été passées, mais qui n'ont pas été réalisées par lui. De là justement, ce nombre effarant de meurtres qui pourraient être élucidés au cours des prochains mois, probablement plus des prochaines années, en raison de ces confessions. C'est énorme. Frédéric Silva, Yasmine, c'est un jeune homme qui a grandi dans le bout de la rue Jarry. Il était très peu scolarisé, mais on nous dit de très bonnes sources qu'il s'exprime et qu'il écrit avec une telle concision, avec une telle précision ça surpasse de loin, en tout cas, le niveau d'éducation qu'on pourrait lui attribuer. Donc, il a une mémoire qui est fidèle et précise. Ajoutons à ça, Yasmine, aussi le fait que quand on devient un témoin spécial, soit pour la couronne ou pour les policiers, la première chose que l'on fait, c'est une déclaration de vie. C'est-à-dire qu'on enregistre. Normalement, je crois que c'est sur vidéo. Je ne sais pas si dans le cas de Silva, si c'est sur vidéo, c'est seulement un enregistrement puis un verbatim qui est produit ensuite, mais au fond, il doit remonter à sa plus tendre enfance puis raconter sa vie particulièrement criminelle aux policiers. Et ces déclarations-là ont été visionnées ou vu ou lu par une petite poignée d'officiers là, faisant partie de l'élite du renseignement criminel au Canada. Et c'est avec ça que les policiers vont maintenant travailler pour entamer des projets d'enquête pour coffrer plusieurs membres du crime organisé au pays. Pas juste au Québec, là, au pays. Écoute, tu m'envoies, là, tu me vois assez exalté quand je te parle de ça, alors qu'on parle de meurtre. C'est
non, mais c'est désolé particulier. C'est
tellement gros.
C'est majeur. C'est majeur dans le paysage criminel, disons, montréalais et québécois. Et ce qui est particulier, Félix, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est que la plupart des tueurs à gages qui se mettent à table demandent de l'argent à l'État. Pas exact. Le cas de Frédéric Silva.
Non. Parlons maintenant de la dynamique qui s'instaure quand on est un tueur à gages, puis que nos crimes sont connus. Pas avant d'être emprisonné, mais pendant son emprisonnement, puis pendant ses procès, puis au cours des dernières semaines, Frédéric Silva a vu plusieurs de ses anciens acolytes qui ont participé ou qui ont aidé la commission de certains de ses crimes se faire assassiner. Donc, pour un tueur à gages, c'était la même chose pour Gérald Galland. Quand les policiers ont une preuve et ils sont capables de le relier, le tueur à gages, à des meurtres et à plusieurs meurtres dans le cas de Silva ou de Galland, la première réflexion du tueur à gages est la suivante. Donc, les policiers savent que je suis le tueur de l'organisation X ou de l'organisation Y. Dans le cas de Gérald Galland, c'était l'organisation de Raymond Desfossés. Et le calcul se fait très rapidement dans leur tête, c'est-à-dire si on connaît le nom de mes commanditaires, ça veut dire que mes commanditaires, eux, pour éviter que je témoigne contre eux, vont m'assassiner. Et c'est une réflexion qui se fait souvent. Alors, la position de négociation d'un délateur, dans le cas de Gérald Galland, là, il y a eu quelques centaines de dollars de cantine par mois, puis la protection pour sa femme, puis la fille de sa femme, si je ne m'abuse. Il n'était pas en position de demander des millions de dollars.
Non.
Et dans le cas de Silva, c'est la même chose. Mais il y a quelque chose, il y a une étape de plus franchie dans le cas de Silva. Au sens de la loi, Silva n'est même pas un délateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat avec le ministère public. Il n'y a pas de signature entraînant le paiement d'un montant. Il est simplement un témoin spécial, entre guillemets, qui pourrait se présenter à la cour lorsque requis. Alors, ça présuppose un travail énorme à faire, notamment par d'éminents juristes là qui font partie du service de poursuite de l'État et du DPCP. Comment on va gérer les confessions de Silva? On peut pas décider si Silva donne 50 meurtres, par exemple, et c'est très possible qu'on soit dans ces eaux-là. On peut pas se réveiller demain matin pour arrêter 50 personnes sur la seule foi du témoignage de Silva. Ça prend beaucoup d'éléments de corroboration, puis etc.
Sa crédibilité aussi, disons qu'il n'a pas la crédibilité la crédibilité nécessaire. Là, j'imagine que les avocats de la défense vont pouvoir arguer ça.
Ben oui, mais rappelle-toi, de triste mémoire, Maurice Boucher qui a subi le premier procès pour le meurtre des gardiens de prison de Diane Aving et Pierre Rondeau à la fin des années 1990. Le délateur Stéphane Godasse-Gagné, l'un des délateurs les plus célèbres au Québec, avait témoigné dans un premier procès et sa version n'avait pas été crue parce qu'on avait miné sa crédibilité avec les policiers puis des membres du DPCP. Rappelle-toi qui était la juge, d'ailleurs, Franche Charbonneau dans le deuxième procès, si ma mémoire est fidèle. Régent Boilard dans le premier, si ma mémoire est tout aussi fidèle, mais dans le deuxième procès, Stéphane Gagné avait beaucoup mieux témoigné, avait revu sa manière, justement, de répondre aux questions, et Maurice Boucher avait été condamné, puis il est en prison depuis. Alors, c'est de l'or en barre, si l'on veut, que le témoignage de Silva, puis on apprend en plus des intrigues un peu inextricables là, dans le cours desquelles Silva là, change d'identité à plusieurs reprises, plusieurs passeports, plusieurs voyages. Franchement, je serais bien étonné que cette histoire n'inspire pas plusieurs documentaires, je lève la main ici, au cours des prochaines années.
Félix Séguin, ben c'est passionnant. J'imagine qu'on va en apprendre plus au courant des prochains mois sur les confessions de Frédéric Silva. Je te souhaite une bonne journée et on se reparle dès demain.
À demain, ma chère. Au revoir.
Et c'est comme ça que se termine l'émission aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès demain, 7h le matin, pour la dernière de la semaine. Ce n'est pas la dernière pour la saison estivale, mais juste pour la semaine. Je vous laisse entre les mains de mon collègue Alexandre Moranville-Ouellette et je vous dis à demain.